Chronique 1001 pages, on retrouve en communication par internet Frédéric. Frédéric, tu nous parles d'un incontournable du moment, Lupin, Lupin le retour.
Oui, mais je vais en parler d'une façon particulière parce que premièrement, moi je suis fan d'Arsène Lupin depuis extrêmement longtemps, je tiens à le signaler. Je suis tellement fan d'Arsène Lupin, je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Alors c'était à la mi-temps entre les deux tomes de son autre histoire de la littérature française. Jean d'Ormesson était venu à Lille pour présenter le premier tome, et à la fin du repas, il faisait mine, parce qu'il était quand même très très bien élevé, Jean d'Ormesson, je veux dire ce que c'est. Vraiment, les gens vous disent ça, mais c'était vraiment quelqu'un de charme. Donc, à la fin du repas, il sort son petit crayon, son petit papier, il fait « Messieurs, il y avait deux, trois journalistes qui étaient là, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans le deuxième tome ?» Comme si lui ne savait pas ce qu'il allait mettre dans le deuxième tome. Hein. Et je lui dis à ce moment-là, je lui dis « Mais vous savez, dans les histoires de la littérature, on met toujours des grands écrivains, on va vous en citer plein. Mais vous aimez bien Arsène Lupin. Pourquoi vous ne mettriez pas Maurice Leblanc qui, d'un seul coup, trouverait comme ça sa place ?» Et quelques mois plus tard, à peu près 9-10 mois, parce que ça n'avait pas mis tellement de temps, j'ai reçu un exemplaire du deuxième tome signé de Jean d'Ormesson et c'était marqué « Avec Maurice Leblanc » et avec un point d'exclamation. Donc, je suis en partie responsable du fait que Maurice Leblanc soit entré dans l'histoire, j'en suis pas fier. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'autre chose, de choses encore plus intéressantes sur Arsène Lupin, qui évidemment, je sais pas, ça fait très plaisir qu'il y ait plein de jeunes qui se mettent à lire Arsène Lupin. J'ai compris que du côté d'Étretat, ils étaient plus ou moins contents parce qu'ils voyaient arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en ce moment et pas le public habituel de Maurice Leblanc. Je vais vous parler des éditions Manutius qui ont choisi de publier Maurice Leblanc comme on l'a jamais lu. Parce que, par exemple, c'est celui qui sort ces jours-ci, le 813. Le 813 est le roman peut-être le plus important avec l'aiguille creuse de Maurice Leblanc. 813 a été au départ un feuilleton, un très, très, très long feuilleton. Un peu comme si Maurice Leblanc abandonnait ce qu'il avait jusque-là voulu être, c'est-à-dire un écrivain. Il admirait énormément Flaubert. C'est le papa de Flaubert qui a mis au monde Maurice Leblanc, d'ailleurs. Le papa, le frère de Flaubert qui a mis au monde Maurice Leblanc. Et Maurice Leblanc racontait partout qu'il avait peut-être été rencontré, été ami, en tous les cas fréquenté Maupassant. Les biographes sont plus ou moins partagés sur cette affaire-là. En tous les cas, là, il abandonne complètement ça et devient feuilletoniste pour le journal Le Journal, tout simplement, il s'appelle comme ça. Et ça passe de, je ne sais pas si c'est dû à lui, mais en tout cas de 800 000 à 1 million de lecteurs. C'était énorme. Évidemment, quand on devient feuilletoniste, on abandonne un petit peu ses idées de grand romancier. En feuilleton, le 813 est énorme, prend une place vraiment gigantesque. Lorsque c'est publié en volume, on a supprimé, ils ont choisi de supprimer un grand nombre d'épisodes. Pour arriver à 498 pages, les volumes ne devaient sans doute pas faire plus de 500 pages. C'est l'explication que l'on donne. Alors, il y a beaucoup de péripéties, il y a plein de choses qui ont sauté. Et les fameuses éditions Manutius, elles, choisissent de vous donner la version complète, la version du feuilleton. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de subtilités, mais ça représente presque un complet volume de nouvelles qui aurait disparu des deux éditions. Alors, si vous avez envie de lire Maurice Leblanc complètement dans sa version de 1910, eh bien, procurez-vous ça. C'est d'autant plus intéressant que ces mêmes éditions ont choisi d'aller regarder un petit peu comment était traduit Maurice Leblanc aux États-Unis, en Angleterre, et ils ont même trouvé dans un des recueils les plus connus de nouvelles de Maurice Leblanc, une nouvelle qui avait sauté. Et ils ont choisi, alors ils ne l'ont pas retrouvé en français pour l'instant, ils ont choisi donc de le retraduire de l'anglais en français pour vous permettre de suivre une autre aventure de Barnett et compagnie. Je vous laisse pour les spécialistes trouver ça. Ça s'appelle Le pont qui s'effondre. C'est également aux éditions Manutius et c'est carrément un Arsène Lupin inédit. Il y a le par-dessus d'Arsène Lupin qui a été aussi retrouvé, enfin retravaillé un petit peu. Bref, il y a vraiment une grosse publication régulière chez cet éditeur qui avait déjà aussi sur les milliards d'Arsène Lupin retrouvé un épisode que plus personne ne trouvait. Un gros travail, très sérieux, très scrupuleux. C'est une façon de relire Arsène Lupin et puis pour les gens qui le connaissent, assez bien de le redécouvrir. Voilà Nico.
Et ben merci de partager l'une de tes passions avec nous Frédéric et on te retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils de lecture dans cette rubrique de cette chronique 1001 pages sur Radio PFM 99.9.